C'est sûr que notre quotidien est un peu réduit, mais pendant ce temps-là, vous le savez, les personnels traitants, les personnels dans les hôpitaux se battent. Et nous allons écouter un interne, un jeune interne qui s'appelle Hugo et que nous accueillons maintenant au 3921, qui travaille, lui, dans un hôpital à Marseille. Bonsoir, Hugo.
Bonsoir, Olivier.
Bonsoir, comment allez-vous ?
Bien, et vous ?
Bah écoutez, un petit peu enroué, mais ça va. Alors Hugo, dites-moi qui vous êtes, ce que vous faites, parce que je crois que vous travaillez près d'un grand de la profession aussi, donc je vous laisse vous présenter.
Oui, alors je m'appelle Hugo, hein, je suis interne en médecine à La Timone, je suis spécialisé en maladies infectieuses et tropicales, donc notamment en virologie.
Oui.
Et moi, je suis arrivé à Marseille il y a même pas 3 mois, donc je suis tout nouveau dans la ville. Et voilà, je suis dans le service du professeur Raoult,
oui,
que je ne connais pas très bien, pour tout vous dire, hein, que comme c'est quand même un professeur, je n'ai pas de contact fréquent avec lui.
Oui.
Mais voilà, je suis par contre au contact des patients coronavirus depuis maintenant une semaine, que je vois en fait tous les jours et que j'ai la possibilité, voilà, de côtoyer. C'est quelque chose pour moi qui est assez inédit parce que comme je vous dis, je suis arrivé à Marseille et d'emblée je découvre une pandémie mondiale, donc c'est,
oui, oui,
une condition assez extrême pour apprendre.
Oui, on peut dire que vous êtes confronté d'emblée au pire, pratiquement, parce
c'est
que...
tout à fait ça, c'est, ouais, tout à fait ça, parce que je pense qu'une épidémie comme celle-là, il y a peu de chances qu'il y en ait une autre dans le XXIe siècle qui soit aussi forte. Et elle me permet vraiment, voilà, d'apprendre au quotidien auprès de mes chefs, de découvrir comment on doit gérer, comment on doit s'adapter à l'épidémie, créer de nouveaux lits sans cesse, de nouveaux services pour essayer, oui, de prendre tous les patients en charge, parce qu'il y a quand même un afflux assez massif depuis maintenant une semaine.
Oui.
On est obligé de créer des nouveaux services, on est obligé de solliciter un personnel toujours plus important, de demander aux infirmières d'être plus nombreuses parce que chaque patient a besoin d'une infirmière. On doit vraiment, voilà, compter sur tout le monde,
oui,
pour faire face à cette maladie qui est assez, assez frappante et qui crée beaucoup, beaucoup de problèmes dans notre système de santé.
J'entendais un de vos confrères hier soir qui,
oui,
évoquait le caractère inédit de ce virus,
oui,
en disant que finalement, vous étiez plutôt même surpris par la virulence de ce virus, que il était beaucoup plus puissant que vous ne l'aviez envisagé au début. Est-ce que vous confirmez cela ou vous infirmez ?
Oui, totalement, totalement. Je pense qu'on l'a sous-estimé, hein, ce virus.
Oui.
On a sous-estimé sa contagiosité déjà. On pensait qu'il serait un peu dans le même état que la grippe, mais en fait, il est beaucoup plus contagieux que la grippe. Au niveau de la mortalité, on ne sait pas encore s'il est plus ou moins mortel que la grippe. Ce qu'on sait juste, c'est que il est apparu et il s'est répandu très rapidement. Et c'est ça finalement qui est problématique, c'est que alors que la grippe, les morts et les contaminés se font de façon plus progressive,
oui,
là c'est d'un coup en fait. Il y a vraiment brutalement une augmentation massive des cas. Et c'est un peu inhérent, comme les cas sont de plus en plus importants, il y a des morts qui viennent et l'hôpital a du mal à capter toute la demande et à capter tous les patients qui arrivent dans un délai très court. Et c'est ça finalement qui fait la dangerosité de ce virus, c'est qu'il est très contagieux et qu'il se propage très vite.
Alors on entend beaucoup de choses, Hugo, sur,
oui,
l'aspect contagieux de ce virus. On a malheureusement entendu quelques médecins, hein, aussi dire des âneries et propager tout un tas de choses qui n'étaient pas, qui étaient soit fausses, soit inexactes. Vous pouvez est-ce que vous savez aujourd'hui, est-ce que les médecins savent de quelle manière il s'attrape, ce virus? Alors par exemple, est-ce qu'il vit sur les surfaces? Est-ce que vous réussissez à évaluer tout ça? Est-ce que on l'attrape en respirant? Moi j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit mais ce virus est dans les parties fines. Enfin on entend tout un tas de choses. Finalement, est-ce que vous avez réussi, vous, à évaluer comment on l'attrapait?
Alors, les deux modes de contamination de ce virus sont à la fois par voie gouttelette, c'est-à-dire que quand une personne parle, par exemple, oui. elle va émettre des gouttelettes qui vont aller à la personne à laquelle elle parle et donc la contaminer. Et le deuxième mode de contamination, c'est le manuportage, c'est-à-dire qu'on l'a sur les mains, en fait, et en touchant les personnes, en touchant les habits, on donne le virus, en fait.
D'accord.
Après, la durée pendant laquelle le virus reste au niveau des surfaces, elle est très hétérogène.
Oui, je suppose.
Personne n'est vraiment d'accord oui. sur la durée pendant laquelle le virus peut persister.
Je suppose
qui parle
que
de
ça
plusieurs
correspond...
heures, d'autres plusieurs jours.
Oui, puis ça doit correspondre à des situations. Je suppose que dans un environnement humide, le virus peut-être tient beaucoup plus longtemps que
oui.
dans un environnement très sec.
Et ça dépend aussi de la contagiosité de la personne aussi. Des personnes qui ont beaucoup de virus en eux et qui transmettent beaucoup plus que d'autres. En fait, c'est aussi ça qui rentre en jeu dans la contamination. Après, voilà, de là à dire combien de temps les particules restent sur les objets et si l'humidité peut jouer, ça je ne peux pas vraiment vous dire,
ouais,
mais
mm-hmm.
voilà, ce que j'en sais, c'est que c'est ces deux modes de contamination qui sont impliqués dans la propagation du virus.
Alors je vous écoutais évoquer au début de votre témoignage le côté inédit et puis la masse de malades qui arrivaient et puis sûrement beaucoup de situations que vous vivez et auxquelles vous devez faire face aujourd'hui. Est-ce à dire que quand on sortira du coronavirus, on sera plus fort? Vous disiez qu'il n'y aura plus ce type de pandémie, on n'en aura qu'une. Ça veut dire qu'on saura combattre ce genre de choses, on sera beaucoup plus fort, beaucoup plus préparé?
Tout dépendra si on a tiré les leçons finalement de cette pandémie. Si on sera mieux préparé la prochaine fois. Parce que là, clairement, on n'était pas préparé à une telle pandémie. Malgré, en fait, les différentes alertes qu'avaient données, notamment les internes, sur le manque de moyens à l'hôpital, le manque de personnel à l'hôpital, il y a eu quand même beaucoup de grèves qui ont été réalisées, notamment en décembre, en janvier,
oui.
où on demandait à ce que le gouvernement réarme l'hôpital, finalement, sans forcément penser à une pandémie qui allait arriver. Hein. On n'avait pas la moindre idée à cette époque. Hein. Mais on savait que l'hôpital n'était plus capable de faire face et qu'on l'avait désarmé. Par exemple, là, dans certains services qui accueillent des patients coronavirus, on se retrouve avec une pénurie de masques, ce qui est problématique parce que si on n'a pas la capacité de se défendre, de se protéger contre le virus, nous les soignants, on est à la merci d'être contaminés.
Oui, complètement.
Et de contaminer à notre tour les autres soignants, voire des patients. Donc
voire
ça, c'était un problème. Exactement,
familles.
Exactement,
ouais.
vous avez raison. Donc ça, c'est quelque chose qui était assez, assez important à dire. Et moi, en tout cas, dans mon service, on a la chance d'avoir des masques FFP2 pour se protéger.
Oui.
Ce n'est pas le cas de tous les services, malheureusement, mais le nôtre, en tout cas, a cette chance. Après, oui, c'est vrai que cette épidémie nous a un petit peu mis face à nos lacunes et nous oblige, je pense, à revoir complètement notre organisation,
oui.
Notre capacité à stocker des masques, parce que là, on n'avait pas du tout pensé à stocker autant de masques pour une épidémie prochaine. Ça avait été reproché à Roselyne Bachelot au moment de son action contre la grippe H1N1.
Oui, oui.
Là, il se trouve qu'avec le recul, elle avait raison finalement d'avoir fait ce stock de masques, parce que si on l'avait eu maintenant, on aurait pu davantage se protéger et davantage éviter les surcontaminations qui sont quand même très importantes. Moi, j'ai beaucoup de mes collègues qui ont été contaminés. J'ai des collègues qui sont en arrêt, hein, qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils sont trop fatigués.
Oui.
Il y a quand même deux internes qui sont en réanimation actuellement, donc qui peuvent malheureusement décéder, hein, qui sont en état précaire. Il y a eu 5 médecins qui sont décédés là ces derniers jours. Donc c'est vrai qu'on a quand même un problème de manque de protection du personnel soignant qui est en première ligne. Et on se demande en fait si le gouvernement a fait tout ce qui était en son pouvoir pour nous protéger, en fait.
Bah, voilà, lorsqu'on entend l'ex-ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui dit avoir vraiment mis en garde le gouvernement au mois de décembre en prévenant d'une catastrophe à venir, en janvier, vous avez dit à ma collaboratrice Natacha qu'on se doutait que cette épidémie allait frapper avec... qu'elle allait nous frapper. Alors peut-être on n'avait pas anticipé la violence avec laquelle elle allait frapper cette épidémie. épidémie, mais comment se fait-il qu'on ait réagi aussi tard, à votre avis ?
D'après ce que dit l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, elle était au courant, comme vous dites, en décembre ou en janvier de la probable épidémie. Alors pourquoi il n'y a pas eu de réaction ? Ça, je ne peux pas l'expliquer. Je pense que l'erreur a été commune. Hein. Il n'y a pas qu'une seule personne qui n'a pas fait son travail. Il y a eu, je pense, une surprise totale. On a un peu sous-estimé, comme je vous disais au début, on pensait qu'il allait se contenter de rester en Chine, oui. Alors que en tenant compte de la mondialisation, du fait que les gens bougent, qu'il y a un tourisme, il y avait des chances que ça puisse arriver. Après, à ce niveau-là, on ne le pensait pas, je pense. C'est vrai qu'il y avait quand même une difficulté à anticiper la capacité ou non du virus, parce qu'on ne savait pas s'il était très contagieux ou peu contagieux. Là, on a eu la confirmation que c'était un virus qui se déplaçait très bien, qui était en plus très vicieux dans sa manière de contaminer, parce que beaucoup de personnes qui n'étaient pas du tout symptomatiques, hein, qui allaient très bien, oui. étaient très contaminants et ont vu beaucoup de personnes autour d'eux sans savoir qu'ils étaient contaminants, donc c'était pas de leur faute, hein, et ont participé à propager le virus. Donc je pense qu'il y a ça aussi qui est rentré en compte dans la propagation de ce virus.
Vous m'avez dit, Hugo, avoir deux collègues internes en réanimation, ce sont donc de jeunes collègues. Là oui. aussi, il y a une barrière qui est tombée, parce que au début on disait que c'était que les personnes âgées qui pouvaient atteindre un état assez grave. Or, ces deux collègues, en fait, quel âge ont-ils et peuvent-ils perdre la vie ?
Alors, c'est deux personnes qui ne sont pas dans ma ville, oui. Mais on a la chance, en fait, les internes, d'avoir un syndicat qui recense tous les cas nouveaux de coronavirus parmi les internes. Et on a appris cette semaine, en fait, oui, que deux internes, je ne sais pas les villes auxquelles ils appartiennent, d'accord. mais on nous donne chaque fois des informations pour nous dire comment ils vont. Les dernières nouvelles, ils étaient encore en réanimation, donc je ne sais pas s'ils vont s'en sortir ou non. Je me dis que bon, leur jeunesse parle pour eux, qu'ils auront la capacité de tenir, parce que c'est ça en fait finalement, c'est la réanimation, ça permet aux personnes de les maintenir en vie en attendant que le virus passe, que leur état s'améliore. Après, de la savoir s'ils iront mieux, je peux pas.
Mais tout ça en fait, cette question, Hugo, dire que on peut attraper.
Que les jeunes sont touchés aussi.
Voilà, c'est parce que c'est encore quelque chose qui a du mal à gagner l'esprit des Français oui. et notamment des jeunes que l'on voit un peu. Alors peut-être un peu moins maintenant, mais on sent une certaine insouciance hein, chez nos jeunes. On n'a pas encore compris chez pas mal de nos jeunes que on pouvait être menacé aussi.
Ah oui, totalement. Je pense qu'il y a quand même une mauvaise prise de conscience d'une partie de la population jeune qui en fait pense que voilà, c'est comme une grippe, donc forcément si je l'attrape, ce sera pas grave. On a vraiment eu des patients graves et moi je ne suis pas en réanimation, donc je peux pas vous dire à quel point les services de réanimation sont touchés, mais ils parlaient quand même de 50% de moins de 50-60 ans qui étaient en réanimation. Ouais. Alors après, il y a quand même à mon sens, un biais dans cette information, c'est que beaucoup de services de réanimation ont tendance, malheureusement, à n'accueillir que les patients dont ils savent qu'ils vont les sauver. Donc, beaucoup de personnes très, très âgées qui risqueraient de mourir en réanimation ne sont pas acceptées en réanimation. Donc, ça, à mon avis, ça augmente, ça diminue l'âge moyen en réanimation. Du fait justement qu'on refuse certains patients trop âgés pour être en réanimation. Ouais. Donc c'est ça aussi qui peuvent participer à diminuer la moyenne d'âge en réanimation.
Alors tous les soirs à 20h, les Français partout en France vous applaudissent, vous soutiennent. Parlez-nous de vos conditions de travail actuelles, Hugo. Est-ce que ça s'améliore un peu ? Vous me parliez de la réorganisation de l'hôpital, en tout cas d'une réflexion obligée autour de tout de cet afflux de malades. Comment ça va au niveau des conditions de travail aujourd'hui ?
Alors, je trouve qu'elles sont un peu mieux parce qu'on a réussi à avoir des masques. On est équipé davantage que les semaines précédentes. On peut aussi compter sur le soutien de différents restaurants, des pizzerias qui nous ont livré en début de semaine des pizzas. Donc, c'est des gestes de solidarité qui sont assez touchants. C'est vrai que le service, ça dépend des services. Comme je vous dis, il y a des services qui sont moins dotés que nous. Mais on arrive quand même pour l'instant à faire face à l'épidémie, du moins à Marseille. On a plus de chance, c'est vrai, par rapport au Grand Est, où on a plus de recul sur l'épidémie. On attendait, on était plus dans l'anticipation que dans le Grand Est, où ils ont été vraiment tout de suite submergés par l'afflux de patients. Mais c'est vrai que nous, pour l'instant, on arrive à bien s'organiser dans le service. Tous les internes se sont spontanément portés volontaires pour venir avec nous. Donc, on a des roulements, on peut se reposer. Moi, je peux être de repos une à deux fois par semaine. J'ai mes repos de garde. Donc, c'est vrai qu'on peut vraiment souffler et ne pas être submergé de travail.
Les infirmières aussi connaissent une amélioration dans leurs conditions de travail ?
Alors, les infirmières, là, actuellement, sont ont l'avantage d'être beaucoup plus nombreuses que dans les services standards. Comme les patients nécessitent une surveillance beaucoup plus rapprochée, on leur demande d'être à une infirmière pour 4 patients pour être vraiment au plus près et qu'elle soit vraiment prête à nous alerter s'il y a un problème. C'est vrai que dans mon précédent service, j'avais pu remarquer que l'équipement manquait, et notamment pour les infirmières qui n'avaient pas toujours de masque ou de gants. Et j'avais notamment en tête l'exemple d'une de mes infirmières qui était enceinte et qui n'avait pas de masque FFP2 pour se protéger. Donc c'est vrai que ça avait un petit peu créé des tensions. Mais après, non. Après, les infirmières font un travail formidable. Je suis premier à défendre leur engagement, leur dévouement. Ils sont sans elles, moi je ne saurais rien, et c'est vraiment une unité qui s'est créée entre nous et qui permet de soigner au mieux les patients. Donc vraiment, ouais, je veux leur rendre hommage, comme d'ailleurs aux aides-soignantes qui sont vraiment, pour le coup, encore plus exposées que nous au virus, parce que comme elles font beaucoup de toilettes, qu'elles sont en contact permanent avec les patients, elles ont davantage de moments où elles risquent d'être contaminées, mais elles sont quand même là et elles font leur travail de manière tout à fait efficace, et c'est ça qu'il faut retenir, je pense.
Quelles sont les initiatives, Hugo, qui pourraient vous soulager ou améliorer vos conditions de travail? J'ai écouté tout à l'heure sur une chaîne d'info un couple qui avait mobilisé des restaurateurs qui, à leur tour, livraient à manger aux internes ou aux infirmières. Est-ce que c'est le type d'initiative qu'il faut démultiplier partout en France, et c'est quelque chose qui vous soutient, ça?
Ah oui, moi qui suis un fin gourmet, je le conseille. Hein. Enfin, s'ils peuvent nous amener des pizzas comme la dernière fois, je suis preneur. C'est vraiment très touchant, comme les applaudissements que l'on peut voir tous les jours à 20h, qui sont des gestes de solidarité envers nous, et qui sont vraiment très bien pris. Et j'espère juste que ce ne sera pas qu'une brindille et que cet engouement, cette solidarité se poursuivra bien après la fin de l'épidémie. Et parce que j'ai pu remarquer qu'au moment du Bataclan, les policiers, les gendarmes, les militaires avaient été soutenus et applaudis par la population. Mais cette solidarité s'était un petit peu, je trouve, estompée au fur et à mesure des mois et des semaines après. Ouais. Mmh. Et on avait plus perçu cette aide que les gens témoignaient au moment du Bataclan. Donc j'espère que ce sera davantage porteur et que ça durera plus longtemps.
Est-ce que cette crise sanitaire vous a conforté dans l'idée que la classe politique avait un véritable mépris à votre égard ?
Spontanément, je dirais oui. Parce que c'est des personnes qui, en fait, ne nous ont pas écoutés quand on commençait à les alerter en janvier de la situation de l'hôpital, et qui en fait ont attendu que la situation soit catastrophique avec l'épidémie du coronavirus pour à peu près prêter l'oreille et nous entendre. Mais je pense qu'il y a quand même un certain mépris, une certaine inconscience de ces personnes qui sont un peu dans leur sphère et n'essaient pas vraiment de se mettre à notre niveau et écouter ce qu'on a à leur dire.
Oui. Moi, j'y vois une fois de plus des politiques complètement déconnectées de la réalité.
Ah mais oui, je suis totalement d'accord avec vous. C'est ce que moi aussi je ressens. Même quand ils viennent pour faire leur spectacle dans les hôpitaux, pour, comme avait fait la dernière fois Madame Buzyn à l'hôpital Nord à Marseille, où elle était venue pour écouter les soignants. Mais c'est un petit peu le même refrain chaque fois et il n'y a jamais d'actes qui sont... fait après sa visite. Donc j'ai entendu le discours du président au moment de la déclaration du confinement où il appelait à ce que voilà une aide des soignants, que les soignants étaient les soldats de la première ligne. Mais je sens pas vraiment de sincérité dans son discours. C'est ça que j'ai plutôt à déplorer.
Alors, on va faire une petite pause, si vous le voulez bien, Hugo. Et oui. Puis, on va finir en parlant du confinement et avoir votre avis sur la forme de ce confinement actuel et si on a besoin d'être un peu plus radical dans ce confinement. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Merci.
Olivier Delacroix accompagne Vonu.
Il est 23h26 et vous êtes en direct sur Europe 1. Vous pouvez continuer à nous appeler au 3921 pour nous parler de vous, de votre quotidien. Comme Hugo nous parle de son quotidien d'interne à la Timone, à l'hôpital marseillais. On a entendu l'appel des jeunes internes, en tout cas des internes même dans leur globalité, Hugo, pour un confinement plus radical. Quel est votre avis? Parce que... vous parliez du président Macron et de son allocution. Moi, j'ai un peu halluciné, je vous le dis, de l'entendre parler sans prononcer une fois le mot confinement, ce qui a pour moi lancé un peu la tonalité de ces premiers jours de confinement. Est-ce que on devrait aujourd'hui avoir un confinement plus radical parce qu'on entend de plus en plus parler d'une vague dramatique dans les 15 prochains jours?
Moi, je suis totalement favorable à un confinement plus radical. D'ailleurs, le syndicat des internes est à l'origine de l'augmentation de ce confinement parce que on a demandé au Conseil d'État de reprendre le gouvernement sur son confinement qui est trop léger et qui ne permet pas finalement d'être efficace. Et le gouvernement a d'ailleurs changé un petit peu les modalités du confinement. Après, ce que j'ai à dire par rapport au confinement, c'est qu'il aurait dû être fait bien avant sa date d'introduction. Oui. Quand on voit qu'on a attendu après les municipales, alors que l'épidémie avait commencé bien avant les municipales, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement n'a pas décidé d'annuler les municipales. Moi, c'est quelque chose que je trouve ahurissant.
Ahurissant.
C'est quelque chose qui aurait dû être fait dans l'intérêt de la population.
Aussi bien qu'on a vu un match de Champions League au moment où l'Italie flambait entre la Juventus de Turin et Lyon, aussi bien qu'on a laissé des supporters du Paris Saint-Germain venir à plusieurs milliers autour du Parc des Princes, on était déjà dans le rouge là à ce moment-là.
Totalement.
Totalement. C'est hallucinant. Donc un confinement plus radical, qu'entendez-vous par là?
Alors, limiter les déplacements, les sorties au strict minimum qui sont récupérer les denrées alimentaires. En dehors de ça, et d'aller voir le médecin ou aux urgences, je vois pas d'autres indications de sortir de chez soi, en fait. C'est un peu c'est la seule manière pour que le confinement soit efficace.
Et plus court, je le rappelle.
Et plus court, exactement.
Mais oui.
Et vous avez raison de le souligner parce que je pense que plus le confinement durera, plus il sera délétère en plus pour la population parce que on crée un isolement social, on crée des tensions dans les familles. Il y a quand même eu une augmentation
des violences faites aux femmes.
Taux de femmes battues, ouais. Exactement, qui est assez préoccupant, des violences faites aux enfants, donc c'est assez préoccupant et je pense que plus il durera, plus on aura de ces situations qui vont augmenter. Donc le maintenir, oui, mais savoir quand on l'arrêtera et le plus tôt possible sera le mieux.
Oui, parce qu'on est au 10e jour et on sent là, depuis un moment, vraiment, que pour certains, ça devient compliqué là, vraiment.
Oui. Ah oui, oui. Je pense.
Vous continuez à recevoir tous les jours toujours plus de malades. Comment ça se passe à la Timone en ce moment?
Alors là, on a déjà créé trois services d'accueil en plus du centre d'infectiologie qui concentrait tous les patients jusque-là. Et ils se sont remplis à une vitesse assez ahurissante. On a deux services qui sont remplis en une semaine. Le troisième, là, qui a été créé il y a deux jours, qui a déjà pris sept patients, on va sûrement se diriger vers la création d'un quatrième service d'accueil. Pour l'instant, tant que le personnel est là, tant qu'on arrive à mobiliser l'infrastructure, on pourra accueillir. Donc pour l'instant, la Timone n'est pas saturée et arrive encore à recevoir des patients.
Le dernier point qui concerne justement tous ces patients qui arrivent, on a entendu ce soir qu'un décret était tombé concernant la chloroquine. C'est bien ça pour vous en tant que médecin? Est-ce que vous avez assez de recul, vous, parce que j'ai l'impression que tout ça aussi est un peu nouveau et assez flou. Mais est-ce que c'est mieux d'essayer plutôt que de ne rien faire, finalement? Parce que c'est un peu ce qui ressort de ces essais qui ont été faits par rapport à la chloroquine.
Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez délicat, mais ça n'engage que moi. Je pense qu'un médicament comme la chloroquine, qui est déjà utilisé depuis plusieurs années, dont on connaît les effets secondaires, on connaît la fréquence de la toxicité, et qu'on peut encadrer d'ailleurs, parce que moi dans mon service, quand on reçoit des patients qui sont traités par la chloroquine et par l'azithromycine, qui est un antibiotique qui peut avoir des vertus antivirales, on fait toujours un électrocardiogramme pour dépister les patients qui pourraient en fait mal réagir à la chloroquine. Oui. Et on fait un deuxième électrocardiogramme au deuxième jour pour voir si oui ou non il y a eu un effet secondaire qui est apparu sur l'électrocardiogramme. Et en fonction, on maintient ou non le traitement. Après, on est très, très, sérieux sur la recherche des effets secondaires, parce que ça peut créer quand même des nausées et des vomissements, la chloroquine. Et on arrête vraiment si le patient ne le supporte plus. Moi, je pense que si on juge que le médicament n'est pas efficace dans deux mois, ben on l'aura donné pour rien peut-être, mais il n'aura pas entraîné d'effets secondaires majeurs. À l'inverse, si on prouve dans deux mois qu'il est efficace, ne pas l'avoir donné maintenant, je pense qu'on...
On a perdu. Vous avez perdu, excusez-moi Hugo. Répétez-moi la dernière phrase parce qu'on vous avait perdu.
Je dis que si dans deux mois on se rend compte qu'il était efficace et qu'on ne l'a pas donné maintenant, on s'en mordra les doigts. On dira on a perdu des patients alors qu'on aurait pu les soigner. Donc ce sera vraiment un scandale sanitaire. Alors que si on se rend compte dans deux mois qu'il n'était pas efficace, on l'aura donné pour rien, mais on n'aura pas entraîné plus de mortalité en le donnant. Donc, c'est pas grave. Voilà, c'est mon point de vue sur le traitement.
Mmh. Alors, au 739-21, il y a beaucoup de SMS, de questions vous concernant, Hugo. L'un des SMS parle de nouveaux cas plus graves en Chine. Est-ce que c'est évoqué, ça, que ça pourrait repartir encore de Chine et puis rebelote finalement? Vous en parlez, ça aussi, à l'hôpital, entre vous?
Alors, une fois que le confinement chinois a été arrêté, est-ce que une réinfection et un départ de l'épidémie en Chine, c'est possible, hein. De toute façon, c'est pour ça qu'on ne veut pas arrêter trop tôt le confinement, parce que si on l'arrête trop tôt, l'épidémie peut repartir. Donc c'est vrai que c'est d'où la question de le maintenir quand même une durée minimale pour éviter une nouvelle épidémie à la fin du confinement. Donc c'est vrai que c'est... Mais je n'ai pas notion qu'il y avait des nouveaux cas graves en Chine. J'avais plutôt notion que ça allait vers le mieux en Chine.
On a entendu parler de certains cas qui visiblement seraient un peu plus sérieux parce que on voyage, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et que des personnes qui sont allées en Europe et qui reviennent en Chine et qui s'infectent développeraient avec le coronavirus européen. Enfin bon, tout ça reste du domaine
J'avais pas cette notion.
Des bruits, mais bon, il faut faire attention à tous ces bruits. Ce confinement, et je sais que ça n'est pas officiel ce que je vous demande, mais vous le voyez quand vous dites qu'on va l'arrêter le plus tard possible. Sincèrement, vous le voyez durer jusqu'à quand, vous? Raisonnablement.
Raisonnablement, je pense qu'il faudra un minimum d'un mois pour qu'il soit efficace. En dessous d'un mois, il risque de ne pas être efficace et l'épidémie pourra repartir en l'arrêtant.
Encore un mois, donc.
Ouais.
Ouais. Bon.
Bah, c'est... Un mois à compter du début, au moins. Je pense
un
que
mois
c'est,
à compter du début.
Durée. Ouais.
D'accord. Bon, c'est moins
ouais.
catastrophique que ce que je pensais, ce que vous avez annoncé.
Mais bon. Tout dépendra aussi du pic de l'épidémie qui se situerait mi-avril.
Oui.
Donc, si on considère que le pic est mi-avril, peut-être fin de confinement, fin avril, début mai, mais ça reste encore que des hypothèses. Et on pourra vraiment le décider que, une fois qu'on aura passé le pic de l'épidémie.
Mmh, mais pense. Alors, ça veut dire quoi, ça? Parce que c'est vrai qu'on nous dit souvent le pic de l'épidémie, mais on donne pas vraiment d'explication sur justement ce que ça entraîne, le pic. Alors à part le nombre de victimes dont on parle à chaque fois, mais le pic de l'épidémie entraîne logiquement quoi?
Le pic de l'épidémie entraîne en fait une saturation de l'hôpital parce que on a un nombre de lits maximum en France de réanimation qui est d'environ, je ne sais pas bêtise, 4000 ou 5000.
Oui.
Et ce nombre minimal, maximal de lits en réanimation, si on le dépasse, si on passe à 10 000 personnes qui doivent aller en réanimation, on ne peut plus recevoir 5 000 personnes parce qu'on a le nombre qui est maximal qui est dépassé, donc on n'a plus de place en réanimation.
Mm-hmm.
Et le risque dans ce cas-là, c'est qu'on ne soigne plus des personnes et qu'on devra choisir entre soigner telle personne ou telle personne parce qu'il n'y a plus assez de place en réanimation.
Et d'un point de vue mouvement, ça n'a aucune... Donc, aucun rapport de dire que dans 15 jours, on aura le pic de l'épidémie et que donc, à partir de là, on devrait voir redescendre la fréquence des malades et des gens infectés. D'accord.
Oui.
Ok.
Oui. En se basant sur la courbe qui a été faite en Chine des cas, on voit qu'il y a un pic et puis après, ça commence à redescendre. Et après, la question, c'est de savoir si ce pic sera mi-avril ou plus tôt ou plus tard, ça on ne peut pas le dire avec précision. Il faudra attendre, je pense, avril pour en être sûr.
Mmh. Enfin, vous me confirmez qu'il faut bien continuer à se protéger, à sortir le moins possible parce qu'on
est en plein dedans. C'est vraiment important.
Ouais.
C'est vraiment très important. Puis, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de patients ne savent pas qu'ils sont contagieux. On considère qu'il y a 80% de personnes qui sont peu ou pas du tout symptomatiques. Donc, ces gens-là, s'ils se baladent dans la rue, qui voient des personnes âgées, ils vont, sans le vouloir, contaminer ces personnes. Et on sait très bien que les personnes qui ont plus de 65 ans sont plus à risque de faire de formes graves, qui plus est s'ils ont des comorbidités comme le diabète, l'hypertension, l'obésité. Donc c'est vrai qu'on fait ça dans le but de protéger aussi ces personnes-là et de leur éviter finalement d'être infectés et d'être à risque d'aller en réanimation.
Et justement, vous aimez bien, je vous dis toujours une dernière question, mais bon, quand je vous ai sous la main, moi, je dis à ma fille de 15 ans, quand on sort, comme aujourd'hui, bon, elle sort pas souvent, mais quand on sort, je lui dis, mets quand même un foulard devant ta bouche, voilà, parce que ça peut te protéger, puis ça protège aussi les autres. Est-ce que j'ai raison ou pas?
Ah oui, après, de toute façon, mettre quelque chose pour interposer sa bouche d'un autre individu, c'est toujours mieux que de ne rien mettre.
D'accord,
parce que c'est des particules qui sont des gouttelettes qui sont relativement importantes et qui peuvent être freinées par n'importe quel de manière plus ou moins efficace, mais c'est pas le plus efficace en comparaison d'un masque FFP2, mais c'est toujours mieux que de ne rien mettre, c'est sûr.
D'accord. Donc c'est bien que pour tous ces jeunes qui pensent que voilà que ils n'ont rien à voir avec cette histoire, qu'ils sachent qu'ils peuvent être des porteurs sains en fait. Hein, c'est ça.
Exactement, exactement. C'est vraiment ça que je pense qu'il faut retenir de cette épidémie, c'est que beaucoup sont porteurs sains, ne savent pas qu'ils ont la maladie et le donnent involontairement à des personnes qui peuvent faire des formes graves. C'est vraiment ça le message à retenir de cette épidémie.
Mmh. Très bien. Hugo, mille merci pour votre intervention ce soir sur l'antenne d'Europe
1. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous, Olivier.
Je vous en prie. Et puis, bien évidemment, si vous avez des collègues qui veulent nous appeler, infirmières, aides-soignants, vous savez que l'antenne d'Europe 1 vous est grande ouverte.
Et que... J'ai ma grand-mère qui vous suit d'ailleurs, qui vous adore.
Ah, et écoutez, vous l'embrassez. Comment s'appelle-t-elle?
Nicole.
Bon, écoutez, je vous embrasse, Nicole. Si vous ne m'écoutez pas maintenant, peut-être vous écouterez le podcast demain. Donc, je vous embrasse bien fort. Merci, Hugo, et bon courage.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
Bonne soirée. Au revoir, Hugo.